7h25, le hashtag, comme tous les vendredis, le rendez-vous interactif de la rédaction. Avec vous, Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume.
Alors le nudge, connaissez-vous le nudge? En anglais, ça signifie coup de coude et ça désigne des techniques de comportement, des techniques liées à l'économie comportementale qui visent à nous faire modifier nos comportements, mais alors de façon douce, presque sans nous en rendre compte. L'exemple le plus connu, c'est cette mouche dessinée au fond des urinoirs des toilettes de l'aéroport d'Amsterdam. Un simple dessin qui a fait baisser de 80% les dépenses de nettoyage dans les toilettes de ces messieurs. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils visent la mouche et salissent moins, terriblement efficace et surtout pas cher, Anne-Laure. Alors vous allez nous présenter donc ce nudge qui intéresse de plus en plus les pouvoirs publics, notamment en France.
Oui, ces techniques ne sont ni des contraintes, ni des sanctions, ni des taxes, ni des lois. Elles ne coûtent pas cher, elles incitent à se comporter autrement. Étienne Bressou l'explique, directeur général délégué de la Nudge Unit chez BVA.
L'idée, c'est comment je peux organiser l'environnement de choix des individus pour les aider à atteindre leurs propres objectifs. Si je veux maigrir, si j'ai chez moi des bols qui sont très gros, quand je mets 30 grammes de céréales à l'intérieur, les 30 grammes de céréales me paraissent tout petits à l'intérieur du bol et c'est plutôt déprimant. Si j'ai au contraire chez moi des bols qui sont tout petits et sur lesquels quand je mets 30 grammes le bol a l'air plein, je vais avoir une impression de satiété beaucoup plus forte et je vais consommer moins de céréales. Donc l'esprit du nudge, c'est ça, c'est comment je m'organise, comment j'organise mon environnement ou comment d'autres personnes peuvent organiser mon environnement pour m'aider à atteindre mes objectifs. On va chercher à faire en sorte que les gens passent d'une intention à une action.
Alors cette théorie du nudge a pour père fondateur le prix Nobel d'économie 2017, Richard Thaler, qui a popularisé cette économie dite comportementale avec un ouvrage paru en 2008, dont se sont inspirés très rapidement les gouvernements anglais puis américains. La France, elle, s'y est mise plus tard. Son unité Nudge emploie 3 personnes, mais elle a de grandes ambitions. Stéphane Giraud en fait partie, les chefs de projet sciences comportementales à la direction interministérielle de la transformation publique, la DITP. Le soutien de ces nudges aux politiques publiques permet, selon lui, d'éviter que ces politiques ne soient totalement hors sol, car l'homo economicus qui prendrait des décisions rationnelles n'existe pas.
Quand vous faites une politique publique, c'est toujours mieux quand même de tenir compte de ces, on peut appeler ça des biais, on peut appeler ça des phénomènes comportementaux, mais tout un ensemble de mécaniques psychologiques qui conditionnent la réussite des politiques publiques, surtout quand ces politiques publiques, elles ont justement vocation à changer les comportements. Quand vous occupez d'environnement, de santé, de sécurité routière, mais aussi du civisme fiscal, vous êtes sur un objectif de changement de comportement. Et pour changer ces comportements, c'est bien de savoir ce qu'il peut y avoir dans la partie la plus intime de nos prises de décision. Mais ça veut surtout pas dire, par contre, aller tenter de jouer avec cette intimité. Il faut juste la comprendre.
Bon, mais alors, Anne-Laure, qu'est-ce qui distingue le nudge de la manipulation?
Alors, on peut se poser la question. Effectivement, quand on sait que, par exemple, un produit affiché à 9,99€ au lieu de 10, c'est aussi un nudge. Et ça, le marketing l'a compris depuis très longtemps. Se pose donc une question d'éthique. Étienne Bressou, de BVA.
Ça pose aussi la question du libre-arbitre, c'est-à-dire que si je modifie un environnement de choix, l'individu va inconsciemment modifier sa décision. Donc on est effectivement sur des techniques qui sont à utiliser avec précaution et dans des objectifs qui sont bien définis. Richard Thaler, quand il dédicace son livre Nudge, il le dédicace en marquant Nudge for Good, et il vous explique dès 2008 que le nudge doit être éthique, et que pour savoir si un nudge est éthique ou non, c'est très simple, il suffit de se dire, est-ce que la personne sur laquelle je l'applique, si je lui disais ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait, est-ce qu'elle est contente ou est-ce qu'elle hurle?
Et si elle hurle, ça n'est pas un nudge, c'est un sludge. En résumé, ce nudge éthique sert toujours l'intérêt individuel et ou collectif. Il doit être transparent et il doit être contournable. Le fait est que, sitôt que l'économie comportementale a été popularisée, elle a aussi été critiquée, notamment par des économistes comme Jean-Michel Servet. Vous pourrez l'entendre sur la page hashtag de notre site. Vous y découvrirez aussi les nombreux exemples de nudge pratiqués par les États qui ont par exemple du mal à faire payer l'impôt dans les délais. Vous verrez qu'une seule petite question sur votre déclaration d'impôt peut tout changer.
Et alors, quelle réaction vis-à-vis du nudge sur les réseaux sociaux, Anne-Laure?
Alors, plutôt des réserves, un emballage marketing d'idées sans consistance, selon un internaute, un bon truc de communication, mais dont l'effet peut être limité pour un autre. Quant aux initiés, professeurs de marketing, par exemple, ils disent beaucoup aimer ce concept enseigné en école de commerce.
Allez, connaissez-vous le nudge? C'est votre hashtag, Anne-Laure Chouin. On le retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr.